Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Voices of Learning, le podcast qui donne la parole aux experts de la formation. Chaque mois, nous recevons un invité qui nous éclairera sur sa vision du monde du learning, ses fiertés, ses frustrations, ses conseils et surtout, quel avenir pour la formation. Notre objectif est de comprendre le passé pour mieux anticiper le futur de la formation. Alors, nous interrogeons des professionnels de différents types d'organisations, entreprises, organismes de formation, influenceurs et bien d'autres encore. Pour une rétrospective complète et enrichissante. Il y a des voix, alors écoutons-les. Lors du dernier épisode, nous avions reçu François Debois de chez L'Oréal. Aujourd'hui, nous accueillons une nouvelle voix, et cette fois-ci, orientée université d'entreprise. Alors, pour ce nouvel épisode de Voices of Learning, j'ai le plaisir de recevoir Michael Desnoz d'Apsid. Bonjour Michael, quel plaisir de t'accueillir parmi nous. Pour commencer, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi et sur ton métier ?
Bonjour Amy, oui je dois pouvoir. Mais avant tout, je souhaite te remercier de m'accueillir dans ton podcast. Alors je suis Michael Desnoz, j'ai 48 ans, marié, et j'ai la joie d'être papa d'une jeune fille de bientôt 12 ans. Alors chez Apsid, une entreprise de services numériques depuis fin 2018, j'exerce en quelque sorte une double fonction, puisque je suis d'une part Digital Learning Manager de l'Académie d'entreprise, qui adresse les salariés, et de l'autre, responsable de l'agence Digital Learning, qui vise quant à elle les clients du groupe. Je peux aussi ajouter que j'ai l'immense privilège d'exercer une profession que j'ai choisie, et dans laquelle je m'épanouis réellement. Aussi loin que je me souvienne, la transmission du savoir m'a toujours passionné. Jeune, je voulais être instituteur. Ce n'est finalement pas le cas, cependant, je m'intéresse depuis plusieurs années tout particulièrement aux différentes modalités d'enseignement, à l'apport du numérique dans ses mécanismes et au fonctionnement du cerveau dans le processus d'apprentissage. Mais pour en revenir à mon métier, en résumé concrètement, je dirais que la majeure partie de mon temps consiste à veiller, à conseiller, à former bien sûr, mais aussi à créer des dispositifs de formation, qu'ils soient présentiels, distanciels ou hybrides, et depuis peu, à les marketer et à les vendre.
Depuis combien de temps travailles-tu dans ce secteur ?
Une vingtaine d'années déjà, pour faire simple. À travers l'exercice de nombreux métiers allant de formateur occasionnel à formateur de formateur, de concepteur e-learning à digital learning manager, ou encore de tuteur à agitateur d'une communauté professionnelle. D'abord dans une institution étatique régalienne, et donc depuis 2018 au profit d'Apsid. Mais au-delà de ces métiers, j'ai aussi beaucoup appris durant cette période de cursus mixtes suivis au CNAM, puis à l'université de Rennes en tant qu'apprenant. Ils m'ont permis d'expérimenter, de vivre et d'identifier des pratiques outillé ou non, à reproduire, à améliorer, voire à ne pas appliquer. D'ailleurs, des noms de formateurs inspirants me reviennent à l'esprit. J'ai ainsi une pensée toute particulière, par exemple, pour Marc Nagels, son utilisation des TIS et de la pédagogie.
Quelles évolutions, quels événements marquants as-tu vu dans le monde du learning ces 5, 10 ou 15 dernières années ?
Cette question est difficile, tellement les évolutions et les événements marquants sont nombreux depuis 30 à 40 ans. Sur un plan technologique, je dirais que nous avons la chance de vivre, depuis les années 80 et l'apparition de l'informatique individuelle, une révolution continue, encore jamais connue à ma connaissance, et qui a une résonance directe sur le monde du learning. Il est sans doute possible de citer dans les années 2000 la commercialisation du premier iPhone ou encore la création de Starbank The Game, un des premiers, si ce n'est le premier, serious game digital. La décennie suivante, la sortie de la première version de Storyline Articulate, et l'arrivée massive des EDTech sur le secteur du learning, dont Domocio fait partie. Cependant, je préfère approcher ta question, Amy, d'un point de vue pédagogique. Et je citerai donc les recherches autour du fonctionnement du cerveau et de l'apprentissage. Quels apports, comment tenir compte dans les ingénieries de formation et les pratiques pédagogiques des mécanismes tels l'attention, la compréhension, la mémorisation ou encore la motivation. De nombreuses sources éclairent ces questions aujourd'hui et c'est passionnant. Je me dois aussi de relever la réforme de la formation professionnelle de 2018 avec la reconnaissance du digital et de la FEST comme de réelles actions de formation par le législateur. Et pour finir, même si nous aurions tous aimé ne pas avoir à le vivre, l'événement majeur récent, bien évidemment, c'est l'épidémie de Covid-19 et le confinement qu'elle a engendré. Cette crise a propulsé le distanciel sur le devant des modalités de formation, et ce bon gré mal gré dans de nombreuses organisations. Ce qui n'a pas été sans conséquence d'ailleurs sur la qualité de cette digitalisation contrainte, allant jusqu'à interroger aujourd'hui la pérennité de ces transitions, qui finalement ne sera peut-être pas.
Étant donné que l'Académie d'Apsid a été créée récemment, Selon toi, pourquoi une entreprise a-t-elle intérêt à lancer une académie comme celle-ci ?
De mon point de vue, sans doute un peu biaisé, les arguments en faveur d'une académie d'entreprise sont nombreux et permettent de répondre à des enjeux tels que la fidélisation des salariés, la capitalisation et le développement de leurs compétences ou encore l'industrialisation de la formation, par exemple. Les tensions observées sur le marché du travail, comme la difficulté pour les entreprises à recruter puis à conserver les salariés, plaident clairement en faveur d'une entité comme celle créée par Absyde au profit des Absydiens. L'objet est bien de contribuer au développement des compétences des salariés, à nos métiers et à leurs spécificités, par le biais de formations animées par des collaborateurs experts au sein d'une entité à part entière, Académie by Absyde, notre académie d'entreprise. Ainsi, on parle en interne de formation des Absydiens par un Absydien. D'ailleurs, Absyde compte aller encore plus loin à moyen terme, puisque l'objectif est de créer une école de formation professionnelle pour renforcer l'employabilité des nouveaux salariés et leur proposer un réel parcours de carrière au sein du groupe. Cette entité offrira un cursus initial, post-recrutement, en alternance, au sein des agences, mais aussi des parcours de formation continue en complément des sessions existantes, de développement des compétences sur les méthodes et les technologies qui sont au cœur de nos métiers. À terme, l'idée est d'ouvrir ces parcours spécifiques à nos clients.
Comment s'est passé le déploiement de l'académie ?
Le déploiement de l'académie a été conduit comme celui d'un projet informatique, par itérations successives, dans un mode d'amélioration continue. Il a ainsi débuté par une collecte de l'existant au sein du groupe et un cadrage du besoin et des contraintes pour aboutir à la conception d'un modèle d'académie, complété par la définition d'une approche de digitalisation de la formation, le rapid learning en l'occurrence. Un benchmark ensuite a permis d'identifier les outils nécessaires de la plateforme à se dédier à la création des ressources multimédia, puis une série d'expérimentations de plus en plus dimensionnantes de la plateforme, mais aussi des outils et du processus de réalisation de contenu, nous a amené à lancer officiellement en 2020 l'Académie Digitale. Son utilisation et l'apparition de nouveaux outils nous amènent depuis à régulièrement l'interroger et à l'enrichir. Toujours dans cet objectif d'amélioration, l'Académie d'entreprise est aujourd'hui un organisme de formation référencé à la Directe, certifié Calliope pour les actions de formation et adhérent à l'association EDTech Grand Ouest. Finalement, fort de cette expérience vécue en interne, nous proposons d'accompagner les entreprises dans la conception et le déploiement de leur propre académie d'entreprise.
À quels enjeux as-tu été confronté ? À quelles difficultés as-tu dû faire face ?
Le premier enjeu a été de répondre à la lettre de mission de mon PDG, en imaginant et en créant un dispositif complet en partant d'une page blanche, et ainsi contribuer au projet d'organisation apprenante qu'il portait. Outre la conception du modèle de l'académie, le second a été le choix des outils, dont celui central de la plateforme d'enseignement à distance, la LXP de MySkillCamp. L'adoption du modèle et des outils par les salariés d'Absyde en a été un autre. Nous avons fait le choix de baser la création du contenu sur l'expérience et la collaboration des salariés. Il fallait donc un processus simple, accompagné évidemment, et des outils intuitifs qui leur soient adaptés et leur permettent de devenir autonomes. Ce parce que les salariés ne sont ni concepteurs e-learning, ni ingénieurs pédagogiques. Comme évoqué précédemment, pour la pérennité du projet, un autre enjeu a tenu en la capacité de s'inscrire dans une démarche de rétroaction pour faire évoluer le dispositif au fur et à mesure de son développement. Nous n'avons plus, par exemple, aujourd'hui tous les mêmes partenaires qu'il y a 3 ans. Nos besoins évoluent, nos partenaires par conséquent aussi. Seule notre collaboration forte avec MySkillCamp perdure. Les principales difficultés, elles, sont identiques à celles de tout projet de ce type, je pense. Elles s'apparentent à la conquête des esprits et à la conduite du changement auprès des salariés en général et du management en particulier. Ce processus de transformation est aujourd'hui bien engagé, à force de communication et de marketing interne. Je pense donc ces difficultés derrière nous.
Selon toi, y a-t-il une différence entre les formations qui ont été créées pour l'interne et celle pour l'externe ? Quelle est l'approche vis-à-vis de ça ?
Oui et non. Dans l'approche, de mon point de vue, il n'y en a pas puisque nous utilisons la même méthodologie de réalisation de contenu de formation, qu'il soit digital, hybride ou présentiel, et que nous adressions les salariés ou nos clients. Nous nous appuyons aussi sur les mêmes convictions, la neuropédagogie, la pédagogie active par projet et le mentorat. De la même façon, le modèle de formation que nous préconisons reste le même. Nous le souhaitons idéalement hybride avec une phase préalable de présentiel en e-learning sur les prérequis et l'horizon de sens et une post-formation de transfert des connaissances à la situation de travail articulée autour d'un projet d'intention mentoré. Notre agence de digital learning tire d'ailleurs sa légitimité de cette singularité en procurant à nos clients un processus et une approche éprouvée en interne. Sur le fond, en revanche, la durée du projet client est plus contrainte. Si en interne, la disponibilité et l'expérience de la formation du salarié expert métier rythment le projet, le processus peut donc s'étaler sur un temps long. En externe, le projet est piloté par l'équipe de l'académie qui s'engage, elle, alors sur une planification précise. Nous serons aussi, sans doute, un peu moins exigeants en interne sur la qualité graphique des contenus multimédia produits, notamment lorsqu'il s'agit des premières productions d'un salarié. La production pour un client est assurée par l'équipe de l'académie et si les outils sont les mêmes qu'en interne, notre niveau d'exigence est forcément beaucoup plus élevé.
Quel retour d'expérience as-tu depuis que tu l'as créé ?
Les retours d'expérience. Ouais, il y a beaucoup de choses à dire sur ces retours d'expérience. Je te propose, Amy, de me limiter à quelques-uns d'entre eux en lien avec le e-learning. Un premier, au démarrage de l'académie, comme nous ne disposions pas de contenu e-learning chez Abside, pour ne pas soumettre aux salariés une plateforme vide, MySkillCamp nous a permis d'intégrer dans le catalogue des cours de plusieurs fournisseurs. Nous avons rapidement revu cette stratégie au profit d'une double approche, curative et par compétences, en nous délestant de bon nombre de ces contenus initialement mis à disposition. La raison en est simple, plusieurs contenus apparaissaient sur une même thématique, or il était difficile pour les utilisateurs de les discriminer. Un deuxième retour d'expérience nous a confirmé qu'il était plus pertinent de produire des contenus, certes exigeants pédagogiquement, mais aussi granulaires et réalisés avec des outils intuitifs et grand public. Faire efficace plutôt que compliqué. Nous produisons ainsi plus vite, maintenant et faisons évoluer les contenus plus facilement que si nous investissions dans des développements longs, comme avec des outils auteurs par exemple. Un dernier retour d'expérience, même si c'est une lapalissade, l'apprentissage à distance autoporté n'est efficace que pour certains apprenants dans certains cas bien particuliers. Ces dispositifs nécessitent d'être accompagnés. Ainsi, nous utilisons nos modules e-learning comme une modalité pédagogique parmi toutes celles mises en œuvre dans nos actions de formation. Il s'agit pour chaque ingénierie de choisir la modalité la plus adaptée à l'objectif visé en s'appuyant sur les différentes dimensions de la formation, présentielle ou à distance, asynchrone ou synchrone, individuelle ou collective, autoportée ou tutorée, et d'approche active ou d'approche transmissive.
Est-ce qu'il y a des innovations qui, selon toi, ont de l'avenir et d'autres auxquelles tu crois moins ? Penses-tu qu'il y en a des prometteuses qu'on peut voir arriver dans un futur proche ?
Je suis toujours un peu frileux avec ce concept d'innovation. Cela étant, pour répondre à ta question, Amy, et pour ne froisser aucun des auditeurs, je dirai les technologies auxquelles je crois le moins. Si je suis foncièrement technophile, je ne crois pas en la pédagogie digitale, parfois entendue par-ci par-là, mais plutôt aux outils au service d'objectifs pédagogiques clairement définis pour donner vie à des pratiques impossibles sans leur utilisation. De la même manière, je n'évoquerai pas l'adaptive learning et les aspects d'individualisation de la formation. Toi et l'équipe de Domocio seraient plus pertinents, même si j'ai un avis assez tranché entre macro et micro-adaptative. S'agissant des innovations, il me semble que les expériences immersives qui permettent de vivre et de faire sont susceptibles d'avoir un apport intéressant pour la formation, notamment par la sollicitation de nos émotions, voire de l'opérationnalité. En ce sens, le métaverse, par exemple, s'il réunit les apprenants au même moment et qu'il joue sur ces deux dimensions, c'est-à-dire qu'il favorise le ressenti et le transfert des compétences à la situation de travail, est susceptible, de mon point de vue, d'être très prometteur. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, ma conviction profonde est plus qu'un outil ou une technologie, l'innovation réside plus certainement dans l'ingénierie de formation, pourvu qu'elle soit multimodale, et dans les pratiques pédagogiques imaginées pour atteindre au mieux les objectifs du dispositif en fonction du public cible. Je l'avoue, c'est très conformiste finalement, j'en suis désolé d'ailleurs, mais c'est vraiment la réelle innovation à date de mon point de vue.
As-tu des conseils à donner ou bien des anecdotes à nous raconter ?
Pas un conseil, mais plutôt une simple règle à vous partager que l'on essaie d'appliquer dans nos productions pédagogiques, quelles qu'elles soient d'ailleurs. Une règle empruntée à l'un de mes mentors, Jean-Luc Berthier, pour ne pas le citer, que j'ai fait mienne. Il s'agit de moins mais mieux. Je vous laisse méditer à cette maxime si vous le souhaitez.
Oui, je pense que nous pouvons laisser nos auditeurs méditer sur cette phrase. Je vais clôturer ce podcast avec une toute dernière question. Quand as-tu entendu parler de Domocio pour la première fois ?
La première fois, ça devait être en 2017, je pense, lors d'un benchmark sur les solutions du digital qui implémentait des principes des sciences cognitives pour le compte de mon ancien employeur. Et Domocio faisait partie parmi Unos, Didask, Toolspark, Zos. J'avais d'ailleurs sollicité quelques mois après l'un des fondateurs, Ivan, pour intervenir sur l'individualisation de la formation lors d'une conférence sur l'innovation pédagogique, organisée pour le compte d'un opérateur des services postaux français. Domocio a bien changé depuis quand j'y pense. L'IA n'était pas outillée comme elle l'est aujourd'hui, hein, avec Domocio Hub et Domocio Lock.
Eh bien, Mickaël, je te remercie d'avoir répondu à toutes mes questions. On peut voir à quel point tu es passionné par ce que tu fais et c'est vraiment beau à entendre. Je tiens à remercier également tous nos auditeurs en espérant que vous avez passé un agréable moment. Encore merci, Mickaël. À bientôt.
Merci à toi, Amy, pour cet échange et aux auditeurs pour leur écoute. À très bientôt.
Merci à tous pour votre écoute, en espérant que ce podcast vous aura plu. Nous nous retrouvons le mois prochain pour un nouvel épisode avec de nouvelles voix expertes en learning. En attendant, n'hésitez pas à partager ce contenu tout autour de vous. Belle journée à tous.